Donc nous accueillons Lionel Staub, qui est expert forestier à Fonsylve à Saint-Étienne. Et nous accueillons Benoît Blusset, qui est pépiniériste, donc à la pépinière Soupe, qui a fait le voyage depuis l'Ain pour nous retrouver ce matin. Donc je le remercie particulièrement. Et Joseph Perreton, qui est directeur à Cap Métropole. Voilà, donc cette table ronde, on l'a construite pour vous, pour échanger sur différentes questions qu'on vous soumet ce matin. Finalement, c'est pourquoi miser sur les arbres pour atténuer le changement climatique. On s'intéressera aussi à quelle place laisser aux arbres dans l'aménagement et la gestion des territoires. Comment s'adapter au changement climatique en plantant différemment. Et quelles techniques de remédiation des sols pollués sont nécessaires au territoire. Voilà, je vous laisse la parole. Donc normalement, c'était une demi-heure par table ronde, donc vous avez environ 10 minutes chacun. Je vous demande d'être vigilants parce que nous-mêmes, nous n'avons pas montré l'exemple. On a commencé en retard. Donc je pense qu'on va manger un peu à l'heure espagnole, mais bon, vous nous excuserez. J'espère que tous ces propos vont vous passionner.
Et c'est à vous en premier.
Bonjour, je voudrais vous remercier là, pour l'invitation.
Ben, je vous en prie.
Alors, je suis un peu moins loquace et à l'aise que M. Soupe, hein, que vous avez rencontré. Voilà, donc on voulait vous donner notre vision, nous, face à bah, effectivement toutes ces évolutions climatiques, toute cette nécessité de revégétaliser l'environnement qui a été perturbé. Donc la pépinière Soupe, c'est une pépinière, on a 450 hectares de production, on est localisé dans l'Ain. C'est une entreprise relativement jeune, hein, qui a 45 ans aujourd'hui. Voilà. Les spécificités de la pépinière, c'est qu'on travaille depuis le ramassage de la graine. On a des équipes qui ramassent les graines, alors soit dans l'environnement, soit en arboretum, soit dans les milieux exogènes. Et on démarre depuis la production du jeune plant. Voilà, on a créé une entreprise de recherche et de développement il y a une vingtaine d'années, la société Synovège, qui a pour but d'étudier des projets connexes à notre métier de production d'arbres. Voilà, donc on a des cycles de production sur 30 ans. Voilà, donc on voit sur le cliché de gauche une production de jeunes chênes. Alors là, c'est des essences exotiques, hein, Quercus castanifolia, c'est un chêne qui vient d'Asie mineure. Quercus rhizophylla, c'est un chêne qui vient du Mexique. C'est des essences qui nous paraissent adaptées aux évolutions climatiques, peut-être plus effectivement que des essences plus indigènes, hein, comme le Quercus robur, qui montre des difficultés à s'adapter en milieu, notamment en milieu urbain. Et à gauche, une production d'arbres d'une trentaine d'années. Voilà. Notre réflexion pour adapter et pérenniser les plantations. Voilà. Donc c'est un travail sur les essences, une réflexion sur les essences les plus adaptées aux évolutions climatiques. Le respect du port naturel des arbres. Chaque essence est programmée pour avoir un port spécifique et respecter ce port est une garantie de leur adaptation au milieu. Enfin, on a une grosse réflexion sur l'amélioration du couple sol-plante. Il y a beaucoup de plantations aujourd'hui, alors plus en milieu urbain qu'en milieu rural, qui sont sur des sols qui sont extrêmement dégradés, sur des sols qui ont perdu leur fertilité. C'est des sols de découverte ou des sols qui ont été stockés, des sols qui ont été maltraités. Et on a un gros travail avec plusieurs laboratoires de microbiologie des sols pour améliorer justement ce couple sol-plante. Donc, premièrement, comment identifier les essences d'intérêt? Eh bien, c'est déjà en observant notre milieu, hein, le milieu proche, le travail qui est fait par les écologues. On est labellisé végétal local, donc on produit des essences qui sont issues du milieu. On va ramasser directement dans les milieux naturels des semences. Alors, dans notre région, dans notre zone pédoclimatique, hein, Rhône-Saône-Jura, donc une zone qui va de Besançon à Valence, mais aussi dans des zones connexes, soit le bassin méditerranéen ou la zone du Massif central dans laquelle la Saint-Étienne Métropole est située. Et puis, éventuellement, c'est de se laisser la possibilité d'élargir la recherche à des zones géographiquement un petit peu plus éloignées. Hein, ça peut être le bassin, le pourtour méditerranéen, ça peut être des zones comme l'Asie mineure. Préparer une migration des essences avec toujours en gardant la vigilance de ne pas introduire d'essences exotiques qui pourraient être invasives. sur le cliché de gauche, là, c'est un Pyrrhus amygdaliformis, un poirier à feuilles d'amandier, bah, qu'on retrouve sur le bassin méditerranéen, en France, qui est présent en zone plus sèche, en zone de garrigue. Et c'est se poser la question, bah, pourquoi cette arbre ne serait pas adaptée, justement, pour préparer une évolution, l'évolution des climats, l'évolution des palettes végétales. Voilà, donc c'est une essence qu'on cultive aujourd'hui, qu'on fournit en zone méditerranéenne, mais peut-être se poser la question de l'introduire effectivement dans des zones qui sont un peu plus septentrionales. Sur la photo de droite, Colorata bipinnata, c'est une essence qui a été identifiée, alors qui n'est pas invasive, mais qui a été identifiée par l'INRAE pour son adaptation à la chaleur et à la sécheresse. Donc ça, c'est un sujet qui est sur le parc Jouvet à Valence. Voilà, on travaille avec des forestiers, donc mon ami Laurent Casal, qui est forestier à Montpellier. Sur le cliché de gauche, un pistacier atlantica, c'est un pistacier qui pousse en Afrique du Nord. C'est une essence qui est utilisée pour préparer, pour limiter l'avancée du désert du Sahara. Hein. Voilà, c'est une essence qui est plantée sur front désertique. Donc, et sur le cliché de droite, un Evodia danieli, Tetradium, c'est une essence asiatique qui a un très très gros intérêt. En anglais, bibitruit, l'arbre aux abeilles ou arbre à miel. C'est une essence qui a un très gros intérêt au niveau de pour les abeilles hein, qui viennent butiner énormément de nectar et de pollen. Alors ces essences exotiques, elles ont été introduites au 19e siècle. Et aujourd'hui, on n'a pas de phénomène on n'a pas de caractère invasif de ces essences. Le respect du port naturel des essences, effectivement, c'est respecter le port naturel. Chaque essence est programmée pour avoir un port spécifique. Aujourd'hui, les plantations en milieu urbain, c'est souvent des plantations très, des arbres en tiges fléchées avec un tronc qui est nu. Avoir des ramifications basses, avoir un cortège végétal autour de l'arbre, ça lui permet de protéger son sol, de protéger son tronc, hein, qui a un canal de circulation de la sève pour éviter les échaudures. Et ça, c'est fondamental de respecter cette architecture naturelle. Idem pour le système racinaire. Hein. Plus on va planter des arbres enracinés, plus on va préserver. On voit bien là sur le chêne, sur le cliché de gauche, système racinaire pivotant qui est très profond. On n'aurait pas du tout la même chose sur un godet forestier. Donc, il faut avoir une vigilance dès l'implantation de l'arbre sur ces questions d'architecture végétale. Privilégier des communautés végétales, avoir des arbres qui sont isolés aujourd'hui sur voirie, on sait qu'ils sont a priori condamné à moyen terme, hein, le problème d'insolation, le problème d'isolement de l'arbre, hein, sur les problèmes de réverbération. On a des arbres qui sont des végétaux qui sont beaucoup plus forts quand ils sont en communauté, quand ils sont groupés. Là, c'est une une plantation forestière mixte, hein, Miyawaki, c'est un cliché qui est à Bourgoin-Jallieu. C'est des plantations d'un an. Effectivement, le fait qu'elles soient regroupées, elles se protègent entre elles, elles créent un réseau racinaire commun. On a énormément d'interfaces entre chaque essence via les micro-organismes. Éviter, alors sur des plantations très urbaines, éviter l'usage de ce qu'on appelle de terre-pierre. Hein, c'est des milieux qui sont extrêmement, extrêmement séchants. Il y a une ressource hydrique qui est très, très faible. On s'est posé, on a une vision très physico-chimique du sol, c'est-à-dire qu'on le considère uniquement sous des caractères minéraux. Et aujourd'hui, il faut se reposer la question de l'approche biologique des sols. Alors, on parlait beaucoup de biodiversité tout à l'heure. Il y a autant de biodiversité, plus de biodiversité dans le sol qu'au-dessus. Et c'est une partie qui est souvent éludée. On a peu de vision par rapport à ça. Et la biologie, la microbiologie des sols est fondamentale. Le sol, c'est vraiment le support de toute cette vie. S'il n'y a pas de sol, on ne peut pas qu'on occupe, hein, au-dessus de la terre n'a pas de sens. C'est pas possible de l'installer. Donc en milieu très urbain, c'est adapter les fosses, éviter des fosses trop riches. Hein, alors c'est une phrase de M. Soupe, il nous l'applique aussi, le confort n'incite pas à l'effort. Ouais. Ça c'est extraordinaire.
Je vais dire après, je rencontre M. Soupe, mais ça c'est important, il faut que les communes l'entendent.
Voilà, planter en milieu urbain, on crée souvent un milieu de fosse. Ça, c'est des plantations qui sont en fosse. Donc, on fait une excavation de matériaux terreux qu'on met en décharge et on ramène ce qu'on appelle, enfin souvent, une terre végétale. Et là, une terre végétale qui est souvent enrichie, sur-enrichie. Et l'arbre qui pousse dans les premières années dans ce milieu, bah, effectivement, étant dans un milieu qui est ultra propice, enfin, les entreprises d'espaces verts font très bien les choses et ça fonctionne. Simplement, quand ils rencontrent le sol encaissant, hein, le sol qui est autour de cette fosse de plantation, mais là, c'est un choc, d'autant plus important que la fosse a été enrichie. Donc, effectivement, on propose, nous, d'avoir une vision, moins horticole de la plantation de l'arbre, hein, peut-être plus respectueuse du milieu qu'il va retrouver de toute façon. Donc éviter de trop enrichir les fosses, limiter les trop grandes différences entre les substrats, le substrat encaissant et le substrat de la fosse. Travailler, avoir une vision sur les micro-organismes, organismes et micro-organismes du sol. Réfléchir sur les apports de matière organique, hein, fractionner les apports de matière organique. Enfin, le compost n'est pas une solution miracle, hein, c'est une matière organique qui est complètement finie, qui est cuite. Donc avoir une réflexion sur un fractionnement des matières organiques. Et puis revoir la configuration physique de la fosse. Hein. Mais bon, ça s'applique plus sur des plantations en milieu urbain. Voilà, ben, un schéma. Hein. Donc respecter l'aération, avoir une réflexion sur les strates de plantation. Hein. Aujourd'hui, on apporte de la terre végétale parfois à 1,50 m, hein, en milieu urbain. Ça n'a pas de sens. Hein. Une terre, elle est réellement vivante dans ses 40 premiers centimètres. Des ouvertures en surface le plus importantes possible, hein, pour favoriser les échanges gazeux, les apports de matière organique. Donc avoir quelque chose de plutôt large et ouvert, d'avoir une réflexion sur le stockage et la restitution des eaux de voirie ou des eaux de surface sur la partie dans les fosses de plantation. Et là, je cherche Fred qui a beaucoup travaillé sur les jardins de pluie, justement sur cette forme de fosse où on vient, la fosse sert à infiltrer, à récupérer de l'eau de surface pour qui va être favorable à l'arbre et puis à aux végétations de surface. Et puis en profondeur, un décompactage profond qui permet les remontées capillaires des couches profondes du sol. Donc on a ce constat de cette problématique de la fertilité biologique des sols, on l'a fait nous il y a une dizaine d'années maintenant. Alors effectivement, on rejoint ce que disait tout à l'heure France FNE, on n'avait pas forcément l'écoute et on paraissait un petit peu décalé par rapport aux enjeux de 2015. Et on a commencé ce programme qu'on appelle Rhizosol, qui est un programme de partenariat qu'on a avec plusieurs laboratoires de microbiologie des sols. Rhizosol, c'est un service d'amplification des souches microbiennes fonctionnelles et locales. Donc c'est un service qui va s'appliquer aux sols dégradés, aux sols de découverte, hein, aux sols qui ont été stockés pendant des années, potentiellement aux sols qui ont été pollués, aux phytos, aux sols agricoles qui ont été surlabourés. Et l'idée, c'est de venir prélever, dans un environnement proche, des échantillons racinaires, des échantillons de sol, de caractériser, d'isoler les souches fonctionnelles, bactériennes, les champignons mycorhiziens, les isoler en laboratoire, en partant de ce microbiote local, les isoler, les amplifier, les reproduire en grande quantité, et pour venir les réinoculer sur des terres dégradées. Vraiment les enjeux, bah, c'est le respect de ce qu'on va trouver dans un environnement, hein, dans une zone pédoclimatique locale. Hein, introduire la notion de terroir, caractériser l'ensemble des micro-organismes fonctionnels pour les végétaux qu'on va avoir sur site, les amplifier en quantité importante pour pouvoir les redonner au sol dégradé une fertilité naturelle. Voilà, donc là c'est une zone de, c'est un cliché, c'est un prélèvement qu'on a fait sur le parc Giraudet, donc ça devait être en 2018. Hein, les plantations ont été faites après coup en 2020. Hein, du temps à droite, un cliché justement de ces mêmes prélèvements racinaires, hein, un cédésif mycorhizien qu'on a prélevé sur des chênes. Voilà. Donc en conclusion, bah pour bien planter, pour planter des arbres qui auront une longue pérennité, une longue pérennité et puis une capacité d'adaptation aux enjeux climatiques, hein, c'est bien analyser les essences qui sont plantées, introduites, alors qu'elles soient indigènes, enfin indigènes plutôt locales, hein, dans le cadre du label végétal local, hein, qui est porté par l'OFB, ou exotique, parce qu'on s'est appuyé, hein, l'homme s'est appuyé depuis la nuit des temps sur des essences qu'il allait chercher dans le monde entier, hein. C'est pas, aujourd'hui, un arbre exotique, c'est pas un gros mot, hein. Le platane, le sophora, les micocouliers, le noyer, les pommiers communs sont des essences exotiques, hein, qui ont été introduites par l'homme dans les temps passés. S'adapter les essences à un milieu, favoriser le port naturel des arbres, favoriser les communautés végétales, avoir des groupes végétaux, hein, qui permettent de garder le sol au frais, à l'ombre, d'éviter la pleine insolation du sol, et puis de donner une vraie place, rétablir une vraie place à la biologie, à la microbiologie du sol, car seule, même l'essence la plus résistante a pas de possibilité de survie si elle n'est pas accompagnée d'un cortège et d'un microbiote racinaire. C'est vraiment fondamental. Voilà, pour nous, c'est trois points où on peut amener une expertise et puis notre vision.
C'est important, merci pour votre présentation, c'est important que les personnes présentes sachent qu'ils peuvent prendre contact avec vous, qu'ils peuvent prendre contact pour que vous expliquiez quels arbres planter, pourquoi, comment, et puis les pérégrinations de M. Souk dans le monde entier pour voir comment les choses évoluent, je pense que ça aussi, ça peut être...
C'est très inspirant. Alors, il aurait mieux expliqué, mais c'est vrai que c'est de multiples voyages en Asie mineure.
Il faut faire comprendre pourquoi cet arbre, il va être plus adapté chez nous maintenant, comment le planter. Et c'est vrai que moi, j'insiste beaucoup sur ces histoires de fosses, là, parce que, vous savez, en général, on a cette idée-là, on creuse, on met beaucoup de terre végétale et on pense que ça va pousser. Donc, c'est toutes ces choses qu'il faut repenser, et ça, c'est important. C'est pour ça que merci d'avoir insisté là-dessus, parce que c'est aussi important. Et puis, je sais que M. Souk m'avait parlé aussi de l'arrosage.
C'est plus important. Le sol est plus important que l'essence, finalement, parce que c'est là que tout se passe. Et puis, je voulais insister aussi sur les. Aujourd'hui, on a une guéguerre entre les essences locales et les essences exotiques. Il y a beaucoup d'écologues qui interviennent en milieu très urbain. Et nous, ce qu'on a constaté, ce qu'on constate tous les jours, c'est que le climat en ville, dans des milieux très urbains, très anthropisés, avec du béton, avec une forte réverbération, avec ce qu'on appelle des îlots de chaleur, souvent, il y a beaucoup d'essences spontanées, locales, natives, qui sont moins adaptées à ces conditions climatiques. Et aujourd'hui, si on veut végétaliser les villes, les milieux très urbains, avec une notion de réussite et de pérennité à long terme, ben effectivement, faut pas se refuser d'avoir accès à des essences d'introduction, quoi. Je pense que c'est ça.
Merci beaucoup.
Ça doit pas être une guéguerre, quoi.
Dans la salle, on me dit, avant de...
Bonjour, je suis bénévole à la LPO. Ma question, c'était,
à partir du moment où on accepte l'idée de faire venir des plantes peut-être qui viennent de très loin, parce qu'elles correspondraient mieux au changement climatique, est-ce qu'on ne va pas rencontrer des problèmes? Ces plantes seront-elles bénéfiques pour la faune, par contre?
Je pense que là, aujourd'hui, nos sociétés européennes, elles se sont développées sur l'introduction de ces essences, hein, la tomate, la pomme de terre, le pommier, le noyer. Et ça, c'est aujourd'hui, on se pose la question de façon un peu anxieuse. Mais ce travail d'acclimatation, d'introduction de ces espèces exotiques, elle a été faite depuis les Romains. Hein, la vigne, la figue, sont pas des essences françaises. Je pense qu'il faut. Ça a été fait il y a deux millénaires, quoi, hein, les premières introductions, les premiers mouvements de végétaux sur la planète, ça a été fait, ouais, quand les chasseurs-cueilleurs sont arrêtés, ils ont commencé à sélectionner, ils ont commencé à aller chercher des essences dans des milieux connexes et puis de les ramener. Hein. C'est pas une nouveauté hein, du tout. Hein. Il y a beaucoup d'essences qui sont sur le territoire, qui sont peu cultivées aussi, qui ont été plantées au 18e, au 19e siècle. Le mûrier, encore une fois, le pommier, hein, les pommes que vous mangez tous les jours, le pêcher, l'abricotier, c'est des essences qui ont été ramenées. C'est pas des essences qui poussent sur notre territoire. Aujourd'hui, la population française, elle s'est développée. Parce que le châtaignier, elle s'est développée, notre population, elle s'est développée parce qu'on avait recours à la pomme de terre, à la tomate, aux haricots verts. Alors, faut être vigilante par rapport aux essences exotiques, invasives. Faut avoir toujours une vigilance là-dessus. La renouée du Japon, c'est une plaie, c'est sûr. Alors, ce que disait le monsieur tout à l'heure, dans des milieux qui sont complètement vierges, elles viennent coloniser le milieu. Après, les apiculteurs, ils la voient d'un œil différent.
Je crois que d'autres intervenants vont aussi parler de ce sujet-là. Donc, on donne la parole à Lionel Staub, expert forestier, qui nous a beaucoup aidé dans l'écriture et l'élaboration de la charte de l'arbre que vous avez dans vos mallettes et du guide technique de gestion des arbres. Donc voilà, je le remercie tout spécialement parce qu'il y a consacré beaucoup de temps.
Merci. Ouais, bonjour à tous. Mon voisin a parlé du port naturel de l'arbre. Voilà, on peut passer. Bon, pourquoi des arbres en ville? Je vais balayer un petit peu rapidement, même si c'est le thème, mais il y a quand même des choses en fait qui sont assez évidentes. Donc on est un petit peu sur de l'enfonçage de portes ouvertes par moment. Se poser juste la question de savoir, essayer d'imaginer une ville sans verdure, à quoi ça pourrait ressembler. Donc en fait, c'est juste pas possible en fait. Parmi les rôles les plus essentiels, les rôles attendus. C'est la notion d'épuration, avec le CO2, le rôle de climatiseur. Donc on a parlé des îlots de chaleur, de lutte contre les îlots de chaleur urbains, notamment par l'évapotranspiration. J'y reviendrai un petit peu après. Régulateur d'eau de pluie. Donc mon voisin a parlé justement de retrouver en fait un travail des sols. Alors c'est pas l'arbre tout seul qui va réguler en fait l'eau, mais c'est le système sol, végétation et avec les arbres, donc qui va permettre en fait de réguler un certain nombre de choses, limiter des inondations. Bon, on parle de fixation de biodiversité aussi, évidemment, atténuation de nuisances sonores, des rôles aussi d'apaisement de cadre de vie essentiel. Tout à l'heure à la table ronde, il a été évoqué là par notre ami médecin que ça avait une importance. Il y a un système qui s'appelle le 330-300, qui est donc en fait une petite recette de bien-être. Avoir trois arbres à portée de vue de sa fenêtre. Être environné de 30% de couvert végétal et habiter à moins de 300 mètres d'un espace arboré pour pouvoir s'y promener. Ça fait partie en fait de quelque chose qui est sur lequel des études se développent pour montrer que on diminue de beaucoup les frais de sécurité sociale liés à aux soins des psychiatriques. Et l'arbre, il a aussi ce côté aussi très patrimonial, avec des fois des désattachements de la population qui sont très forts. Sur les notions de climatisation dans les villes, hein, voilà. Donc vous avez cette image que vous avez, c'est pas moi qui l'ai inventée, hein, je l'ai récupérée sur Internet. Vous avez donc les problématiques de température. Donc il n'y a pas que l'ombrage des arbres, il y a aussi en fait tout ce qui est l'évaporation, et donc c'est véritablement un système climatiseur qui fonctionne avec, donc comme le disait aussi mon voisin, on a des, je veux dire, en ville on n'a pas les mêmes températures que aux abords des villes, alors que en fait, je veux dire, à l'échelle juste même des fois de la commune ou du groupement de communes, on est sous un certain climat, mais en ville on a des microclimats qui sont beaucoup plus sévères. Qu'est-ce qui fait l'importance des arbres et même des végétaux d'une manière générale, c'est cette usine en fait qu'on appelle la photosynthèse. La photosynthèse, vous avez tous appris en CE2 que c'est très bien parce que ça donne de l'oxygène. Mais vous n'avez pas compris en ayant juste appris ça le fondement en fait de la photosynthèse. La photosynthèse, c'est dans les feuilles, et dans les feuilles que ça se passe. Donc, on va y revenir après sur la gestion des arbres, notamment sur les élagages multiples et variés. C'est dans les feuilles que ça se passe, c'est-à-dire que vous avez la récupération de l'eau du sol, la récupération du CO2 atmosphérique, celui qui nous fait tant souffrir et puis qui contribue aux augmentations de température. Tout ça mélangé dans la feuille va vous faire du glucose. Et le glucose va servir après, derrière, à l'arbre à fabriquer des tas de trucs, dont le bois, dont les fleurs, qui va fabriquer tout l'arbre à partir de ça. Et il va y avoir un déchet, et ce déchet, c'est l'oxygène. Voilà. Donc la photosynthèse, c'est pas un luxe supplémentaire donné en fait par les arbres, comme quoi en plus ils produisent de l'oxygène. C'est véritablement en fait le principe de la photosynthèse, c'est de fabriquer en fait tout l'arbre. Donc évidemment, mon voisin parlait du sol. Bon, je pense que ces illustrations-là vous permettent un petit peu de voir aussi dans quoi on est. La difficulté en fait d'un arbre pour vivre en ville, bon, c'est tout simplement pas son milieu. Donc vouloir l'implanter en ville parce qu'il nous est nécessaire, c'est une bonne chose. Encore faut-il après, donc derrière, pouvoir en fait lui laisser au moins son espace vital, car c'est un être vivant. Voilà. Les arbres aussi, donc, ils ont cette particularité en fait de normalement pouvoir rester quelques années en fait à nous accompagner en ville. Et quelques années pour un arbre, c'est quelques dizaines d'années, quelques décennies plutôt. Et là, quoi, bon, vous avez cet exemple là qui est Courforiel à Saint-Étienne. Vous voyez que les platanes qui ont été implantées à l'époque où ils étaient implantés vivent aujourd'hui dans un monde qui est totalement différent. On leur a menti à ces pauvres arbres, comme quelque part. Quand on les a plantés là, on leur a dit, tu verras, tu seras bien. Vous voyez ce qu'on leur fait aujourd'hui. C'est presque au même endroit, oui. Donc, là, vous voyez, là, sur la photo en haut à gauche, vous avez donc des petits platanes qui sont venus en remplacement de platanes plus grands. Sauf que le platane plus grand a été implanté dans une période où les arbres ont été... Enfin, je veux dire, où le sol n'était pas encore autant artificialisé, ils ont pu se développer et ils ont pu résister malgré tout ce qu'on leur a fait subir. Aujourd'hui, on plante de nouveaux arbres dans des sols qui sont complètement différents et qui, effectivement, par contre, eux partent sans quasiment aucune chance. Et donc, en fait, on dit maintenant que l'espérance de vie d'un arbre planté en ville, globalement, c'est à peu près 30-40 ans. Donc ça, donc là vous voyez là par exemple sur la photo qui est en, alors je sais pas si vous le voyez bien parce que le pauvre il est mort, sur la photo en haut à droite, donc c'est un platane qui a été planté il y a 10 ans et ça y est, il est cuit, il est sec. Donc en fait, quel rôle a-t-il pu jouer en termes de climatiseur, en termes de stockage de CO2, en termes de tout ce que vous voulez? C'est à peu près zéro. Voilà. Mais par contre, il a coûté au moins 1 000 euros à sa plantation. Et puis maintenant, il va falloir recommencer. Voilà. Donc ça, c'est effectivement c'est ce qu'on peut donner en fait en termes de différentes valeurs. Donc il y avait au départ la notion, on se basait uniquement sur les valeurs esthétiques des arbres, en disant effectivement qu'il y a une période où en fait ils coûtent pas trop cher. C'est la période en fait où vous voyez là sur la courbe jaune, là quand elle est basse, c'est les coûts. C'est-à-dire que il faut essayer de faire durer au maximum cette période où ils coûtent pas cher. Donc c'est les respecter complètement. Et ils ont aussi, en plus, quand ils vieillissent, ils perdent peut-être un petit peu de valeur esthétique, encore que c'est discutable, mais par contre ils gagnent beaucoup en valeur écologique. Voilà. Je fais référence aussi au barème de l'arbre, donc qui peut aussi être utilisé par les collectivités pour arriver à mieux chiffrer en fait les dégâts faits aux arbres. Voilà, donc je vous présente deux arbres, donc toujours sur le un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Vous avez en fait l'idée des fois que remplacer un arbre, c'est pas si grave. Finalement, en fait, vous vous apercevez que sur le long terme, il faut quand même planter beaucoup de petits arbres pour arriver à compenser ce qu'on va perdre avec l'arbre qu'on a enlevé, tout simplement parce qu'il nous dérangeait peut-être, parce qu'on n'a pas voulu faire un petit détour, que la rue fasse un petit virage, et puis que c'était quand même mieux de passer tout droit. Il y a des moments, il faut peut-être aussi réfléchir un tout petit peu mieux, je veux dire, sur l'impact qu'on a, en fait, sur les arbres qu'on a. Les difficultés de plantation, donc j'ai expliqué rapidement, les difficultés de plantation qu'on a pour arriver, en fait, à bien reverdir. il faut bien les prendre en considération et savoir préserver ce qu'on a, c'est déjà pas mal, avant de commencer à dire et puis de mettre en route des compteurs de on a planté 10 000 arbres, 50 000 arbres, 100 000 arbres, des fois sans même se poser la question de savoir si c'est pas les mêmes qu'on replante. Voilà. Donc c'est pour ça, planter des arbres c'est bien, savoir les préserver c'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Donc, savoir les préserver, c'est aussi savoir un petit peu les connaître. Donc, je vais vous passer très rapidement. Donc, en fait, nous explique bien qu'un arbre, ça naît, ça vit, ça meurt. Ça, vous avez tous entendu cette phrase. Sauf que les choses sont un tout petit peu plus complexes. Donc, en fait, vous avez donc des arbres qui peuvent être sains, et à n'importe quelle étape de leur vie, en fait. C'est pas parce qu'ils arrivent en fait sur une phase un petit peu entre guillemets stressée parce que des chenilles sont venues bouffer le feuillage pendant tout un printemps, parce que un élagueur est passé par là puis a tapé un petit peu trop fort dans les feuilles, parce que beaucoup de choses. L'arbre a une capacité de résilience. Et cette capacité de résilience ne l'entraîne pas nécessairement. Donc, c'est le point où, en fait, on voit là, au milieu, vous avez l'arbre stressé. Soit il est stressé et puis il n'a plus assez de vitalité pour pouvoir arriver, en fait, à être résilient, auquel cas il va sur un dépérissement. Mais il y a des moments où il faut aussi savoir laisser leur chance, en fait, aux arbres de pouvoir se refaire une santé. Et des fois, on observe trop, j'allais dire certains paradoxes qui sont, en fait, on voit beaucoup de branches sèches, mais aucune feuille rouge. Et des feuilles bien vertes qui sont à la base de ces branches sèches. Donc, en fait, là, on est sur un arbre qui a perdu, mais qui regagne. Et c'est pas nécessairement un arbre dépérissant, c'est au contraire un arbre résilient. Donc, avoir aussi cette vision-là qui rentre en ligne de compte sur des arbres, en fait, à préserver. Voilà. Et évidemment, ça, ce truc aussi qui, en tant que professionnel, me hérisse un petit peu, c'est-à-dire vous avez une confusion dans le public, en fait, qui est sur la notion d'arbre creux, d'arbre malade, d'arbre dangereux. C'est trois notions qui sont fondamentalement différentes. Et il faut bien, un arbre malade, c'est un arbre qui présente des symptômes de dépérissement. Un arbre creux, c'est un arbre qui a perdu des parties déjà morte en lui, donc en fait il n'est pas nécessairement malade. Et puis après, savoir est-ce qu'il est dangereux ou pas dangereux. Un arbre creux, si vous connaissez certains arbres remarquables, comme par exemple le tilleul de Saint-Prix-la-Prugne, qui n'est pas du tout sur le territoire, c'est un arbre qui fait 7 mètres de circonférence extérieure et 6 mètres 50 de circonférence intérieure. Il est creux depuis largement plus de 200 ans. Ben, il est toujours debout, donc comme arbre dangereux, voilà, il faut arriver aussi des fois à avoir prendre un certain recul avant de, systématiquement avoir peur des arbres et les couper trop rapidement. Voilà. On va passer un petit peu là sur cette notion là sur le risque. Le risque présenté par un arbre, c'est un risque de rupture, mais qui est aussi à relier avec alors la dimension du truc qui risque de tomber. Si c'est une petite branche, c'est pas très grave. Si c'est de l'arbre en entier, c'est un petit peu plus gênant. Mais c'est surtout par rapport en fait à une cible. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez un arbre qui menace de tomber qu'il est nécessairement dangereux. S'il est dans un périmètre où personne ne va, on peut le laisser aller jusqu'au bout de sa vie tranquillement. Et en plus, il favorisera tout un cortège de biodiversité en ayant un certain nombre de cavités, de pourritures diverses et variées qui peuvent le laisser encore tenir peut-être 10 ou 15 ans. Voilà. Donc, la préservation des arbres, ça passe par la préservation en fait de l'intégralité de l'arbre, c'est-à-dire c'est un système foliaire, le houppier, le tronc, les charpentières, c'est ce qui permet en fait sa tenue, les racines, les grandes oubliées en fait de tous les aménagements en fait urbains, on commence à y venir un petit peu à mieux les prendre en compte, et surtout l'environnement proche et immédiat de l'arbre, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un arbre qui est bien préservé si par exemple vous avez du jour au lendemain vous construisez en fait une tour de 10 étages sur la partie où il recevait son ensoleillement, vous allez le mettre à l'ombre. Et inversement, si vous tombez en fait une grande tour, eh bien à ce moment-là, vous allez avoir, des phénomènes en fait de prise au vent. Voilà. Donc un petit mot sur le système racinaire, mais mon voisin l'a déjà développé, donc on peut passer. des trucs à pas faire, à ne plus faire. Voilà, je commande pas beaucoup plus. Hein, vous voyez bien ce que ça veut dire quand on ouvre des tranchées juste à côté des arbres, quand on les élague comme ça, qu'on les met à poil, alors qu'il y a aucune raison de faire ça, parce qu'il y a voilà, on passe. Voilà, et donc le fait des fois d'avoir des mauvaises actions sur les arbres vont entraîner des fois des défaillances d'arbres qui vont être plus ou moins problématiques. Hein. Donc sur la photo de droite, je vous rassure, ce n'était que la bagnole qui a été cassée, mais effectivement, il y a quand même des cas où malheureusement, j'allais dire, sur des mauvaises gestions d'arbres, on peut aussi créer en fait des systèmes de voilà. Alors, dans les aménagements urbains, il y a quelques urbanismes à côté de nous. Voilà, tant que vous représenterez un arbre par un point AutoCAD, hein, puisque c'est le logiciel utilisé, on n'aura toujours pas compris qu'est-ce que c'est qu'un arbre. Un arbre, c'est un volume. C'est pas ponctuel. Donc, voir par exemple la photo en bas à droite, l'arbre sur un point AutoCAD, ça ne gêne pas qu'il soit sur une ligne entre deux stationnements, et ça ne gêne pas qu'il soit juste à 30 cm d'une grille d'évacuation. Donc je vous rassure, celle-là n'a pas été prise sur le territoire de Saint-Étienne Métropole.
Voilà. C'est important ce que vous dites, parce que c'est pas tout de se donner des moments d'autopensant, c'est pour ça qu'on insiste avec cette stratégie qu'on va faire et avec la charte de l'arbre. Ouais. Parce que c'est pas de dire, eh ben, tiens, je mets trois arbres, là, je fais un petit truc comme ça, je mets trois arbres, c'est pas ça. Il faut vraiment qu'on prenne conscience de voir que si on replante, eh ben, il faut replanter correctement.
Voilà. Donc, on me dit d'accélérer, donc je voulais revenir sur un point fondamental, donc qui est, je vous ai parlé de la photosynthèse, et en fait de bien que vous ayez bien conscience en fait que quand on parle d'élagage, à chaque fois on nous explique en fait ça dynamise l'arbre, que ça le rajeunit, ça c'est des conneries monumentales en fait. C'est parce qu'on n'a pas compris le sens de. J'aimerais bien que vous puissiez revenir sur la photo d'avant, voilà, qu'on puisse, je veux dire, le c'est par la photosynthèse, donc par les feuilles, que l'arbre se nourrit. Donc plus vous en enlevez, plus vous lui enlevez de la nourriture. Heureusement, l'arbre est prévoyant, il fait des réserves. Il fait des réserves qu'il va cacher dans son tronc, qu'il va cacher à la base des branches. Et c'est à partir de ces réserves qu'il est capable de pousser s'il les a. Et c'est pas parce que vous allez le tailler qu'en fait il va avoir des réserves. Il va avoir des réserves ou pas, puis vous allez le tailler et puis ça va repartir ou pas. Mais l'action de taille n'est jamais bénéfique en fait pour un arbre. Et donc c'est pour ça que tout à l'heure la cocotte, donc mon voisin a parlé aussi du respect de l'architecture de l'arbre, et ça vient d'ici. Donc la photo suivante, c'est-à-dire que quand vous allez implanter un arbre, bah effectivement dans certains endroits, alors vous avez des essences qui sont très braves, type le platane, il est capable en fait de subir à peu près n'importe quelle mutilation, et puis finalement il va quand même arriver à survivre de ces mutilations. Mais c'est pas parce qu'on travaille bien, c'est parce que en fait c'est parce que c'est une essence qui est très généreuse. Non, précédente. Ça c'est pour après, c'est pour le dessert. Donc dans l'absolu, en fait, un arbre n'a jamais besoin d'être taillé, et c'est toujours pour des nécessités humaines qu'on est contraint en fait à devoir le tailler. Donc c'est soit pour des raisons esthétiques, plus ou moins judicieuses, pour des éléments de contrainte, parce que en fait on a planté un platane dont l'envergure normale serait à peu près 25 mètres, mais que finalement on est à 3 mètres d'une façade et puis à 2 mètres d'une ligne de bus, donc ça fonctionne pas. Et donc voilà, c'est ça qui va faire qu'en fait on va être obligé de tailler et puis après de revenir en fait sur les systèmes de taille. Donc après se retourner vers mon voisin pour choisir en fait, quand vous avez une place de 10 mètres à gauche et de 3 mètres à droite, choisir la bonne essence qui ira sans qu'on ait besoin de la tailler. Voilà. Donc là je vous laisse effectivement la vision de l'élu par rapport aux arbres. La très grosse difficulté que vous avez, c'est que vous êtes toujours obligé de gérer dans du quotidien, prendre des décisions au quotidien sur un sujet de long terme que l'arbre en fait est par excellence, plus que les autres végétaux, on va dire de manière plus large, arbustes et herbacées. Je veux dire, vous pouvez réfléchir de l'année à l'année. Voilà.
Donc, j'espère que vous vous avez aidé à écrire donc, ce document sur la charte de l'arbre. Merci beaucoup. C'était important de pouvoir travailler quelque chose qui allait unifier notre métropole et que les communes travaillent sur cette charte. Donc c'est quelque chose d'important. On vous remercie de votre contribution.
Excusez-moi. Oui. Juste aussi pour dire que M. Stubb, chez nous, les arbres grimpeurs en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est quelqu'un qui compte. Il devrait être remboursé par la sécurité sociale. Ah. Je vais expliquer dedans. Ben, malheureusement, ce n'est pas que l'élu qui a essayé. Je crois que M. Danara est arrivé aussi. C'est également des élus qui disent aussi des fois, attention, je préfère un arbre bien coupé, comme vous avez dit au conseil municipal, qu'une maman qui se fait écraser son arbre. Ça avait au parc de la Tête d'Or il n'y a pas longtemps, j'en ai bien conscience. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous rapprocher. Vraiment, mais merci d'être toujours aussi pertinent. Et puis, formons les élus, formons-nous entre nous, mais aussi, n'oublions pas ce que j'ai dit à l'heure, les techniciens. C'est un petit technicien qui sont en train de couper, je suis la gueule, je monte à 40 mètres. Si à un moment, je ne suis pas avec vous, les experts, et avec vous, les élus, ça ne marchera pas. Donc j'espère que cette journée aussi, on retiendra ça, réunissons-nous. Et merci, je vais beaucoup mieux quand je vois ça.
On peut donner la parole au Cap Métropole. Le diaporama charge.
Ouais, pas de souci. Merci. Donc Cap Métropole, donc on est un aménageur parapublic donc de Cap de Saint-Étienne Métropole et des de 17 communes de la métropole. Et je voulais on a beaucoup parlé du vivant et revenir sur une expérience qu'on a mis en place sur le projet Nova Syrie à Saint-Chamond qui vous sera représenté en mode de gestion dans le, lors de la troisième table ronde. Mais revenir sur un sujet qui nous intéresse beaucoup qui est de la renaturation des sols faisant trois constats. D'abord que notre territoire est beaucoup concerné par des friches industrielles ou des friches de manière générale avec une certaine forme de d'anthropisation et donc de végétalisation qui ont disparu. Le fait que donc ces friches sont souvent dépourvues de terre végétale et donc du coup que par ailleurs la terre végétale son approvisionnement est de plus en plus compliqué et de plus en plus contraint. Et donc face à ces trois constats, il y avait différents enjeux. D'abord, économiser la ressource ou les ressources naturelles, développer une filière de réemploi, parce que sur les friches, on a d'abord des sols qui sont anthropisés, souvent pollués. On met beaucoup d'énergie à les dépolluer, mais une fois qu'on les a dépollués, on n'en fait pas grand-chose de valorisant ou pas suffisamment en tous les cas. Et donc comment monter une filière de réemploi pour que c'est la reconversion de ces friches industrielles ou de ces friches tout court qui jalonnent notre territoire soit plus aisée et moins coûteuse. Et donc pour ça, il faut qu'on puisse trouver des solutions techniques qui puissent nous permettre d'arriver de façon plus dynamique et moins contrainte vers la zéro artificialisation nette. Voilà. Et donc et pour ça, il faut sans doute changer de paradigme de façon assez forte. Et à ce titre-là, donc, on a eu besoin de monter un projet qui a été soutenu par un certain nombre de partenaires et différents acteurs, à la fois Suez, le BRGM pour la partie recherche avec Valterra, Artelia et puis nous en tant que représentants d'acteurs des collectivités. Donc ce projet, il a duré pendant plusieurs années dans l'objectif principal qui était de créer une filière pérenne de création de terres végétales, de sols fertiles plus généralement à des fins donc de paysages urbains et tout ça à partir de sols pollués. Les objectifs plus spécifiques étaient d'identifier les ressources sur notre territoire, de pouvoir identifier et formuler des substrats qui soient conformes avec ce qui a été évoqué tout à l'heure, une végétation qui soit adaptée aux usages mais aussi des sols qui soient adaptés à la végétation qu'on met en place et puis de pouvoir lever des verrous réglementaires puisque aujourd'hui les sols que l'on manipule à travers des friches polluées sont des sols qui sont extrêmement réglementés et que normalement la réutilisation est devenue assez complexe. Donc pouvoir trouver des moyens d'application pour faire évoluer les pratiques mais aussi les normes. Et tout ça dans une acceptabilité sociétale. Donc il y a eu beaucoup de recherches expérimentales qui ont été faites, beaucoup des ateliers de travail, et ça a été rappelé à plusieurs reprises, où les acteurs se sont rencontrés, les élus, les techniciens, dont certains sont dans la salle, les entreprises d'espaces verts, les pépiniéristes, etc. Et pour pouvoir donner du concret à tout ce qui a été dit et tout ce qui a été pensé, on a mis en place un certain nombre de démonstrateurs, certains donc dans la vallée de la chimie, dans le Rhône, et puis deux ont été mis en place à Nova Syrie, donc il y a un site que Cap Métropole aménage avec nos collègues de l'EPORA, dans l'optique de pouvoir se donner à voir sur un site qui est en cours de réaménagement concrètement ce que l'on peut mettre en place et qui est ensuite appropriable à la fois par les habitants et aussi par les services gestionnaires dont les moyens ne sont pas toujours extrêmement fournis. l'enjeu donc d'acceptabilité sociale et puis l'enjeu d'acceptabilité financière, dépolluer, retraiter une friche, on a toujours l'impression que ça coûte cher. La conclusion à laquelle on voulait arriver, c'est qu'on voulait montrer que reconvertir une friche industrielle coûte moins cher que d'aménager un secteur naturel, un terrain agricole ou un terrain naturel. Et donc du coup, il faut mettre tous les coûts induits. Et donc ce que l'on a voulu montrer, et c'était l'un des enjeux du projet Agrège, ça a été de déterminer tous les éléments de la chaîne de la création d'un espace vert, depuis la génération des sols jusqu'à son retraitement, mais dans un milieu urbain. Et donc du coup, on s'est rendu compte que, de manière générale, des économies étaient possibles, des économies en termes de carbone, on évite des noyades de camions qui circulent, on évite d'aller impacter des milieux naturels, on facilite aussi une certaine forme d'acceptabilité sociale, et puis l'enjeu aussi financier, on est dans des contraintes financières, donc on a aussi essayer de déterminer que ces coûts étaient potentiellement moins importants, ces coûts financiers étaient moins importants, avec plusieurs déterminants. Le premier, c'est que tous les acteurs se parlent. Et le deuxième, c'est qu'on puisse avoir un temps suffisamment long pour intervenir en amont et pouvoir anticiper la dernière phase des opérations d'aménagement, qui sont la création des sols. Et tout ça donc dans différents usages possibles. Ce qui nous intéresse en tant qu'aménageurs sont pas des sols à vocation de production agricole, mais ça pourrait l'être d'ailleurs, mais plutôt de création d'espaces urbains. Ça a été largement évoqué, mais de pouvoir penser toute cette dynamique-là avec des usages et des enjeux. Là encore, et ça sera présenté à la troisième table ronde, avec aussi des enjeux d'entretien et de vie à long terme. Nous, on est aménageurs, on vient investir, on est là pendant 2, 3, 4 ans, on fait presque le plus simple, et que derrière, il faut que ces espaces y vivent, ils soient compris, et donc ça nécessite aussi que les sols qu'on mette en place soient adaptés à la gestion future. Voilà, j'ai essayé de faire vite pour revenir dans le timing.
Merci beaucoup.
Oui, on a dit qu'il fallait faire court. Alors, je vous remercie d'aborder le sujet qui, à mon avis, devrait être capital une fois qu'on a parlé de biodiversité. Tout à l'heure, on a parlé, en fait, je dirais presque de signe extérieur de richesse de la biodiversité. On a parlé d'oiseaux, on a parlé de batraciens, d'insectes. Mais la priorité numéro un, 80% de la biodiversité terrestre, elle est dans le sol. C'est-à-dire des bactéries, la microfaune, la microflore. Et le stockage du carbone, c'est le sol, c'est pas l'arbre. Curieusement. Tout ce qui est en dessous de l'arbre, c'est celui, si vous avez un sol de qualité, c'est lui qui va stocker du carbone, avec ses racines aussi. Mais c'est pas le tronc. Donc en fait, la priorité vitale, je dirais bien, après, ça serait d'abord de penser à avoir des sols de qualité, des sols vivants, qui stockent beaucoup de biodiversité, 80%, je vous rappelle. Voilà. Deuxième élément, un arbre, biologiquement, potentiellement, c'est immortel. Du point de vue cellulaire, en fait, il n'a pas de vieillissement. À ce moment, il y a un problème, il se trouve confronté un jour au problème physique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a les canaux qui se bouchent, il est fragilisé, il va être attaqué par des prédateurs. Mais effectivement, c'est un être potentiellement immortel. Merci.
Merci beaucoup. On remercie les intervenants de la table 1 et on appelle les intervenants de table 2.